Donne la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 30 juillet 2014, chez Robin Lorcil et Morgane Guerriac en votre compagnie. Bonsoir.
Bonsoir, cher Robin. Bonsoir, l'Afrique. Au sommaire ce soir, drame à Conakry. Un mouvement de foule lors d'un concert a entraîné la mort de plus de 30 personnes.
Une semaine de deuil national décrétée, le directeur général de l'Agence guinéenne de spectacle a suspendu et une enquête ouverte.
En Centrafrique, la milice anti-Balaka met en garde contre toute tentative d'agression ou de destruction des biens des musulmans. À Gaza, le bilan s'alourdit au sein de la population civile. 15 morts aujourd'hui après bombardement d'une école de l'ONU. 3 militaires israéliens ont été tués dans une autre opération.
L'Europe et les États-Unis resserrent l'étau contre la Russie à cause de son intervention en Ukraine.
Nous parlerons en magazine de la première journée mondiale contre la traite d'êtres humains.
Et nous aurons les sports et la musique en fin d'émission. Mais d'abord, le journal. Kano, dans le nord du Nigeria, est le théâtre d'une nouvelle attaque. Un attentat suicide s'est produit sur un campus d'une université. Et encore une fois, le kamikaze était une femme. Il y aurait plusieurs morts, d'après Adamou Aboubakar Gwarzo, notre correspondant sur place.
Une fille qui était venue dans une école, College of Legal Studies, qui est à côté de l'université de Kano. Quand elle était venue, il y avait des étudiants qui consultaient leurs résultats. Donc, elle était venue comme aussi une étudiante. Malheureusement, elle était une kamikaze. Donc, c'est comme ça, le bombe s'est explosé avec elle. J'ai vu pas mal, beaucoup de morts et beaucoup de blessés. Mais il y avait Croix-Rouge même qui était présent. Et puis, ils ramassaient aussi les corps et puis des blessés. Donc, mais pour l'instant, la police ne nous a pas donné le taux officiel de mort. Maintenant, la population de Kano a peur des femmes. Quand ils voient une femme maintenant voilée islamique, ils se disent maintenant, comme Boko Haram a changé de stratégie, maintenant ils utilisent des femmes. Donc, c'était très dangereux. Mais si vous vous rappelez, dans le nord du Nigeria, la femme, elle est très respectée. Comme ils prennent des femmes comme des saintes. Mais maintenant, les gens ont commencé par avoir peur des femmes.
Par ailleurs, selon l'AFP, le gouvernement nigérian a annoncé l'arrestation d'une fillette de 10 ans, désignée comme une membre présumée de Boko Haram, portant une ceinture d'explosifs dans l'état de Katsina, voisin de Kano.
Au Cameroun, le président Paul Biya a limogé mardi 2 officiers supérieurs de l'armée. Ils étaient en poste dans le nord du pays où les attaques de Boko Haram se multiplient. Ces sanctions interviennent après l'attaque de dimanche qui a fait au moins 15 morts à Kolofata, dans l'extrême nord du Cameroun.
En Guinée, un concert de rap a tourné au drame hier soir à Conakry. Il y a eu au moins 33 morts dans un mouvement de foule. On fait le point avec Michel Joseph.
La bousculade s'est produite sur la plage de la commune de Ratoma, dans le nord de Conakry. Des milliers de jeunes étaient massés pour un concert de rap d'un groupe très populaire dans le pays. Le bilan officiel est de 33 morts, dont 11 mineurs et au moins 58 blessés. La présidence a exprimé sa consternation et décrété une journée de deuil national. Le directeur général de l'Agence guinéenne de spectacle est suspendu pour ses fonctions et une enquête est ouverte pour situer les responsabilités. D'après un message diffusé à la télévision nationale, toutes les plages de Conakry sont fermées jusqu'à nouvel ordre.
La fièvre hémorragique Ebola progresse en Afrique de l'Ouest. Un médecin sierra-léonais chargé de la lutte contre la maladie est mort du virus, Sara Diaby.
Seul spécialiste de la fièvre hémorragique en Sierra Leone, le docteur Cheikh Oumar Khan, 39 ans, est décédé après avoir contracté le virus Ebola. Il avait traité plus de 100 malades à Kailahun, dans l'est du pays. Le Nigeria a aussi connu son premier cas après le décès vendredi d'un fonctionnaire libérien à Lagos. Bart Jensen, directeur des opérations de Médecins sans frontières, tire la sonnette d'alarme sur le risque de propagation du virus à d'autres pays. La compagnie aérienne Sky, basée au Togo, a suspendu ses vols vers la Sierra Leone et le Liberia, emboîtant le pas à la compagnie nigérienne Eric Air. Le virus Ebola a déjà causé la mort de 672 personnes sur quelques 1200 cas recensés en Afrique de l'Ouest.
En République centrafricaine, après avoir mis fin à leurs opérations militaires, les anti-Balaka se lancent dans une vaste sensibilisation. Les leaders de cette milice préviennent contre toute tentative d'agression ou de destruction des biens des musulmans sur l'ensemble du pays. Le point avec Idriss Fall.
L'opération vise les groupes de jeunes réputés proches des anti-Balaka qui se sont illustrés dans des agressions, des vols, destructions de biens appartenant aux musulmans. Aujourd'hui, ce sont les chargeurs et autres employés du bureau d'affrètement routier qui sont prévenus. Brice Emotion Namsio, porte-parole des anti-Balaka.
Le peuple centrafricain a trop souffert. On ne peut pas continuer à nous entretuer. Et à chaque fois, s'il y a des choses qui se font, on dit que ce sont des chargeurs qui le font. Donc pour laquelle nous sommes dit, il faut organiser des séries de rencontres comme ça. Ça peut vraiment les motiver et demander à tout le monde de se réconcilier entre eux. Parce que notre pays est un pays laïque. Il faut que les musulmans du Kemetseng peuvent passer, soit au niveau de Barque jusqu'au Boirap. Ceux de Boirap peuvent rentrer au Kemetseng en ce qui concerne la cohésion sociale.
Par ailleurs, le général Thierry Lyon, commandant de la force européenne, invite les déplacés des 3e et 5e arrondissements de Bangui à retourner dans leur maison, car selon lui, la sécurité est revenue dans ces deux arrondissements.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, l'armée congolaise et les casques bleus ont repris une vingtaine de villages, jusqu'alors contrôlés par des groupes rebelles. Des avancées réalisées la semaine dernière dans les territoires de Beni, Walikale et Lubero, dans le Nord Kivu, souligne la MONUSCO, la mission onusienne en RDC. À Beni, ces opérations ont pris pour cible l'Alliance des forces démocratiques, une rébellion islamiste ougandaise. À Walikale, les opérations se sont concentrées sur la milice d'autodéfense Sheka, accusé d'avoir participé au viol collectif de près de 400 personnes en 2010.
Procès d'un ex-membre de la garde présidentielle au Rwanda, le parquet a requis la prison à perpétuité contre le lieutenant Joël Mutabazi. Il est jugé par une cour martiale à Kigali, notamment pour formation de groupes armés, complot contre le président et terrorisme. Il avait été livré en octobre 2013 au Rwanda par l'Ouganda, malgré son statut de réfugié.
La Libye plongée dans le chaos après le départ des Occidentaux, c'est au tour des populations de prendre le large. La Tunisie a menacé de fermer sa frontière avec la Libye si le flux des réfugiés devait s'accentuer. Jean-Roger Bion.
Dans le sud tunisien, au poste frontalier de Rajedi, principal point de passage avec la Libye, de longues files de véhicules chargés de bagages attendent leur tour pour entrer en Tunisie. La Tunisie évoque une moyenne quotidienne de 5 000 à 6 000 personnes à ses frontières. La Libye est le théâtre depuis la mi-juillet de combats meurtriers entre diverses milices à Tripoli, par ailleurs menacées par un immense incendie d'un dépôt de carburant. À Benghazi, dans l'Est, le Croissant Rouge libyen a annoncé avoir retiré 35 corps de soldats d'une importante base militaire prise mardi par des islamistes. Depuis la chute en octobre 2011 de Muammar Kadhafi, les autorités libyennes ne parviennent pas à contrôler les milices qui font la loi en Libye en l'absence d'une armée et d'une police régulière.
Explosion au sud du Caire en Égypte. 3 personnes sont mortes dans un pick-up qui transportait une bombe. D'après le ministre de l'Intérieur, ces explosifs étaient destinés à un attentat terroriste.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un bombardement israélien a touché aujourd'hui une école de l'Agence des Nations Unies à Gaza, faisant au moins 15 morts. Jacques Aristide.
L'attaque s'est produite ce mercredi matin dans le camp de réfugiés palestiniens de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, où une salle de classe a été touchée de plein fouet par des obus de chars israéliens. Le correspondant de la VOA sur place, Scott Bob, a été témoin de la scène chaotique qui a suivi le bombardement. La plupart des gens sont morts, la dévastation est totale, raconte-t-il. Des réfugiés lui ont confié qu'il ne valait plus la peine désormais de se mettre à l'abri des pilonnages dans les camps de l'ONU et qu'il ne leur restait plus de rentrer chez eux pour mourir. Chassés de leur maison par les combats entre l'État hébreu et le Hamas, plus de 200 000 habitants du territoire palestinien vivent dans des conditions très précaires dans 85 écoles gérées par l'agence onusienne pour les réfugiés à Gaza.
Trois soldats israéliens ont été tués au combat ce mercredi dans la bande de Gaza, a indiqué une porte-parole de l'armée israélienne. Ces décès portent à 56 le nombre de soldats israéliens tués depuis le début du conflit le 8 juillet. Par ailleurs, 27 soldats ont été blessés aujourd'hui lors de combats dans la bande de Gaza, a ajouté l'armée israélienne, qui dit avoir touché 40 cibles terroristes dans l'enclave palestinienne.
Dans l'est de l'Ukraine, les séparatistes pro-russes n'ont pas permis aux enquêteurs internationaux d'accéder au site du crash de l'avion malaisien abattu le 17 juillet dernier. Après les discussions avec les rebelles, les observateurs de l'OSCE ont regagné leur base à Donetsk pour raisons de sécurité. Un porte-parole de l'armée ukrainienne accuse les rebelles d'avoir posé des mines tout autour du site. 298 personnes ont péri dans cette tragédie.
Réaction à Moscou suite aux nouvelles sanctions annoncées mardi par l'Europe et les États-Unis pour protester contre le rôle de la Russie dans la crise ukrainienne. Pour le ministère des Affaires étrangères, ces mesures visant les secteurs de l'énergie, de la défense, de la technologie et des finances sont destructrices à courte vue et contribueront davantage à la détérioration des rapports entre la Russie et les États-Unis. 30% du secteur bancaire en Russie pourrait être affecté. De la vie et de Washington.
Un glissement de terrain dans l'ouest de l'Inde a fait 17 morts et plus d'une centaine d'autres personnes pourraient être portées disparues. Les efforts de secours sont difficiles à cause des fortes pluies et du mauvais état des routes dans cette région du Maharashtra. Selon l'inspecteur général de la force d'intervention post-désastre, Sandeep Rai Rathore, le bilan pourrait atteindre jusqu'à 200 morts.
La Corée du Nord a effectué un nouveau test de missile, ce qui envenime le climat de tension sur la péninsule. Pour l'instant, les responsables sud-coréens ignorent si les quatre missiles de courte portée lancés ce mercredi ont achevé leur trajectoire en mer ou sur le territoire nord-coréen. Le chef du commandement militaire américain dans le Pacifique, l'amiral Samuel Locklear, a déclaré hier que les tests effectués par Pyongyang sont un sujet de préoccupation majeure.
L'économie américaine a enregistré un taux de croissance annuel de 4% au deuxième trimestre, ce qui représente une augmentation de 100% par rapport au premier trimestre. Un hiver rigoureux, on se le rappelle, avait entraîné un ralentissement économique de janvier à mars. La plupart des économistes avaient prévu une amélioration, certes, mais pas de cette envergure. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique, chez Robin Dorsil et Morgane Guerriec en votre compagnie. Il est 18h42 en temps universel, 14h42 ici à Washington. Le point qui domine l'actualité en Afrique de l'Ouest, ou l'un des points, Morgane, c'est cette tragédie à Conakry.
Un concert de rap a tourné au drame hier soir dans la capitale guinéenne. Une bousculade a fait au moins 33 morts sur la plage de la commune de Ratoma. Correspondance de Zakaria Camara.
De la cora sur les antennes des médias publics comme à chaque fois que le pays est en deuil. Selon le gouvernement guinéen, au moins 30 adolescents sont morts et plusieurs blessés lors d'un concert organisé à la plage de Rogbané dans la banlieue de Conakry. Guenaba et ses copines étaient partis regarder les groupes Baluezard et Instinct Killers.
On a commencé à jeter les sables, tout s'est parti de là-bas. Quand nous sommes arrivés au niveau du portail, j'étais avec 4 personnes. Ils nous ont dit, retournons, on va s'arrêter un peu. On s'est mis à l'écart, on a attendu 1 heure de temps. Maintenant, en sortant là-bas, c'est seulement qu'on a vu, il y avait un jeune homme qui était couché par terre. Lui, il était décédé. Au couloir là-bas, il y avait une jeune fille aussi. Celle-ci aussi, elle aussi, elle était décédée. Maintenant, arrivé au niveau du rond-point, c'est là-bas qu'on a entendu dire « Yeah, il y a eu plus de 20 morts ».
Dans un communiqué publié mardi soir, le président Alpha Condé a pris une batterie de mesures. Une semaine de deuil national décrétée, le directeur général de l'agence guinéenne de spectacle a suspendu et une enquête ouverte. Le président guinéen a également annoncé d'autres mesures ce matin sur les lieux du drame.
Le gouvernement va prendre toutes ses responsabilités. On va renforcer la brigade environnement et urbanisme pour empêcher toutes les occupations et prendre des décisions sur nous-mêmes pour faire l'aménagement pour que les jeunes puissent avoir des lieux de plage mais sécurisés.
Le premier ministre Mohamed Saïdou Fofana se dit choqué et promet des sanctions.
Des responsabilités pénales vont être situées et au plan administratif, des décisions vont être prises. C'est avec un cœur révolté que nous parlons.
C'est le deuxième drame similaire cette année. En janvier, des bousculades à la plage de Lambagny avaient fait 7 morts. Le gouverneur de Conakry avait fermé toutes les plages de la capitale. Qui a autorisé la rouverture de ces espaces? S'est interrogé le Premier ministre Arobané devant un décor triste. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Ici aux États-Unis, un grand débat est en cours sur ce qu'on entend par réfugiés suite à l'arrivée à leur frontière de milliers d'enfants non accompagnés d'Amérique centrale. Élément de réponse avec Lionel Gaïma.
Des milliers d'enfants sont actuellement dans des centres de détention débordés et leur nombre ne cesse d'augmenter. Selon un rapport des Nations Unies, plus de 21 000 étaient déjà arrivés l'an dernier du Salvador, du Guatemala et du Honduras, et quelques 19 000 autres du Mexique. Anna Green de l'International Rescue Committee explique que les parents envoient leurs enfants aux États-Unis à cause d'une extrême pauvreté et de la violence des cartels de la drogue et autres gangs. Ces enfants fuient la violence et risqueraient leur vie s'ils venaient à être renvoyés chez eux. Ce sont donc des enfants qui bénéficieraient vraisemblablement de la protection des États-Unis, mais ils ne le seraient pas tous. Ceux qui fuient la pauvreté pour une vie meilleure sont généralement qualifiés de migrants économiques. À la différence des réfugiés, ils ont choisi de quitter leur propre pays. Si une personne demandant l'asile ne bénéficie pas du statut de réfugié, elle peut être expulsée des États-Unis. Alors, qui est et qui n'est pas réfugié? Jana Mason du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés cite 5 critères spécifiques. Ils ont trait à la persécution, la race, la religion, les origines ethniques ou nationales, les opinions politiques ou l'adhésion à un groupe social particulier. Pour Jana Mason, le HCR, dans des circonstances extraordinaires, peut qualifier des réfugiés tout un groupe de gens, par exemple ceux qui fuient la guerre en Syrie ou les conflits en Afrique. Peut-on dire que le degré de responsabilité d'un gouvernement est différent, surtout vis-à-vis d'un enfant fuyant la pauvreté par rapport à celui qui fuit des hostilités? Non, répond Anna Green de l'IRC.
It looks different, but the protection principles are exactly the same.
Ça a l'air différent, mais les principes de protection sont exactement les mêmes, y compris le fait que chaque enfant non accompagné, quelles que soient les raisons de son départ, a besoin de certains types de protection dont les adultes n'ont pas besoin. Dans le cas des arrivées à la frontière américaine, Mason estime important de donner la chance aux migrants sans papier d'expliquer leur situation et de suivre le processus d'octroi d'asile. Le droit international veut qu'on leur accorde le bénéfice du doute, ajoute Anna Green. Pour nombre d'experts, cependant, le meilleur moyen d'endiguer la vague actuelle, c'est de s'attaquer aux causes profondes qui les poussent à se lancer, pour commencer, dans une odyssée si dangereuse.
C'est aujourd'hui 30 juillet, la première journée mondiale contre la traite d'êtres humains. À cette occasion, l'Organisation des Nations Unies lance un appel pour que l'on mette fin à ce fléau. Camille Grosdidier.
Cette journée mondiale contre le trafic des êtres humains intervient 4 ans après l'adoption par l'Assemblée générale de l'ONU d'un plan de lutte contre ce crime. Ce plan met l'accent sur la prévention, la poursuite des auteurs et la protection des victimes, et il appelle les États à la mise en œuvre. Les militants des droits de l'homme voient une autre étape dans la lutte contre cette forme d'esclavage des temps modernes. Aucun pays n'est à l'abri, selon Yula Hadadin, conseillère auprès de la haute commissaire des Nations Unies aux droits humains.
It takes place in farms, in
Elle se pratique dans les fermes, dans les usines, dans les ménages. La forme la plus sérieuse est lorsque vous soumettez des gens à la servitude ou vous les abusez en tant que travailleurs domestiques. Cela prend forme dans l'exploitation des prostituées ou en forçant à la prostitution. Cela prend tellement de formes. De nos jours, nous avons beaucoup de mariages forcés et les mariages forcés sont une forme de trafic. La traite des êtres humains prospère parce qu'elle est très lucrative. L'Organisation internationale du travail chiffre ce commerce à 150 milliards de dollars par an. Environ 21 millions d'hommes, de femmes et d'enfants sont victimes de travail forcé et la prostitution forcée. D'après l'OIT, la région Asie-Pacifique est la plus affectée par ce trafic, suivie par l'Afrique et l'Amérique latine. Difficile de cerner les causes profondes, mais selon Yula Hadadin, de nombreux facteurs rendent vulnérables certaines populations.
Certain groups are subjected to violence.
Certains groupes sont soumis à la violence, à la discrimination sous toutes ses formes. La pauvreté peut être un facteur, mais pas la cause principale. Elle peut contribuer, mais tous les pauvres ne sont pas victimes de trafic. Certaines victimes viennent même de familles riches. Il y a des personnes qui choisissent d'immigrer vers d'autres pays à la recherche d'une vie meilleure et qui deviennent victimes de trafic parce qu'il n'y a de politique claire en matière d'immigration. Les Nations Unies utilisent symboliquement cette journée pour sensibiliser le public sur les violations horribles dont souffrent des millions de personnes et rappeler que tous les États doivent œuvrer pour mettre fin à une telle pratique.
Dernière journée du sommet Yali, ici à Washington. Les leaders, les jeunes leaders africains qui sont l'avenir du continent, ont pu écouter ce mercredi un discours prononcé par Michelle Obama. La première dame des États-Unis a parlé de la condition féminine sur le continent africain. Reportage de Nicolas Pinault.
Oui, cette rencontre était aussi attendue, voire plus que celle de Barack Obama. La femme du président a rappelé le long combat qu'il reste à parcourir pour les filles et les femmes dans le monde. 62 millions de fillettes ne vont toujours pas à l'école, dont 30 millions en Afrique subsaharienne. Au-delà des financements nécessaires, Michelle Obama a surtout rappelé que le vrai débat se situe sur la place de la femme dans le monde.
Even when girls do attend school, they often do so at great risk.
Même quand les filles vont à l'école, elles courent un grand risque. Et comme mon mari l'a dit plus tôt cette semaine, nous savons que quand les jeunes filles ne sont pas éduquées, ça ne limite pas que leur futur, mais elles sont aussi vulnérables à la pauvreté, la violence et les maladies. Et ça limite le futur de leur famille.
Madame Obama a insisté, tout n'est pas négatif et des progrès énormes ont été accomplis en matière d'accès aux soins ou à l'éducation. Elle a aussi salué l'exemple rwandais où les femmes représentent 60% des parlementaires. Un exemple flatteur, mais beaucoup reste à faire. La priorité, selon Madame Obama, est de se débarrasser des traditions barbares.
When girls in some places are still being married off as children, sometimes before they even reach puberty.
Quand dans certains endroits, les fillettes sont mariées de force, parfois avant même d'avoir atteint la puberté, quand les mutilations génitales féminines continuent dans certains pays, quand le trafic d'êtres humains, le viol et les violences domestiques sont encore si communes et les auteurs de ces crimes ressent impunis, on a encore du sérieux travail à faire en Afrique et dans le monde. Ce sont de sérieuses violations des droits de l'homme qui n'ont pas leur place sur Terre.
Michelle Obama a séduit l'audience en affirmant que le combat pour l'égalité est le combat de tous et surtout les hommes. Vital est un jeune entrepreneur béninois.
Oh mon Dieu, cette femme, elle est extraordinaire. Et je pense que si nous pouvons donner assez de force à toutes les femmes africaines, être aussi fortes que cette dame-là, je pense qu'il y aura un gros changement. Je pense personnellement que Barack Obama a eu énormément de chance de l'avoir et qu'il n'aurait pas pu être président sans une femme de ce calibre-là.
Dans la salle, les jeunes africaines s'identifient beaucoup à la première dame des États-Unis. Christelle est originaire de Lubumbashi, au Katanga.
J'ai pensé qu'elle a été vraiment très réelle. C'était vraiment des situations qu'elle a vécues et ça nous a tous rappelé ce qu'on a vécu dans nos sociétés, ce qu'on vit au quotidien. Tous ces problèmes de discrimination liés à la culture, tous ces problèmes de discrimination liés au social, les hommes d'abord, les femmes après, on est tous passés par là. Et vraiment dans son discours, on a senti qu'elle aussi, elle a eu à vivre ce genre de choses et qu'elle est déterminée à faire que les choses avancent exactement comme nous, nous nous battons aussi dans nos pays pour améliorer les conditions des femmes.
Quelques privilégiés ont pu s'entretenir lors d'une réunion privée avec Madame Obama, une rencontre dont ils auront sans doute beaucoup de choses à raconter. Nicolas Pinault, Washington, La Voix de l'Amérique.
monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Une toute petite note de sport, Morgane, pour dire que deux anciens bleus, Willy Sagnol et Claude Makélélé, seront particulièrement scrutés pour leur début d'entraîneur de Ligue 1, signale le site de la FIFA. Ils seront respectivement sur les bancs de Bordeaux et Bastia, tout comme l'Argentin Marcelo Bielsa, qui sera à Marseille, et le Portugais Leonardo Jardim à Monaco. Et le monde du foot est en deuil, Morgane, parce qu'il y a Julio Humberto Grondona, le président de la Fédération Argentine de Football et vice-président senior de la FIFA, qui est décédé ce mercredi à Buenos Aires après avoir été hospitalisé pour insuffisance cardiaque. Il avait 82 ans. Le président de la FIFA, Sepp Blatter, a exprimé sa consternation. Il s'agit d'un coup très dur sur le plan personnel, car c'était l'ami de toute une vie. C'est également une perte énorme pour la FIFA en tant qu'institution. Il était l'une de ses personnalités les plus importantes, a déclaré Blatter. Grondona avait débuté sa carrière de dirigeant en 1956 en fondant Arsenal Football Club. Le 6 avril 1979, il est devenu président de l'AFA, c'est-à-dire la Fédération Argentine de Football, et il le sera jusqu'à son décès. Sa longévité dénote son importance dans la structure du football argentin. Il a également été président du club Atlético Independiente de 1976 à 1981. Et enfin, signalant que depuis 1988, Grondona était membre du comité exécutif de la FIFA, vice-président senior. Il était également président de la commission des finances. Et une autre déclaration de Blatter à l'occasion de ce départ de Julio Humberto Grondona. Au nom de notre organisation, je souhaite exprimer à la famille de Julio nos condoléances les plus sincères. Nous en faisons de même. Et comme chaque soir, on va se quitter en musique avec Roger Montou. Roger, qu'est-ce que tu nous réserves ce soir?
Salut Gabi, salut Morgane. Elle est née Yvonne Machaka et on l'a surnommée la princesse de l'Afrique. Depuis 20 ans, elle a été à l'avant-garde de la musique populaire en Afrique du Sud. Chaka Chaka est devenue le premier enfant noir à apparaître à la télévision sud-africaine. Citée en 1981 dans Cabane à sucre, un spectacle de talent. Sa chanson fétiche, Umkomboti.
Umkomboti, wema jamin.
This is Yvonne Chaka Chaka and you're listening to the Voice of America.
When my jamin, wopum komboti. When my jamin, wopum komboti.
Come on.
C'est la fin de cette édition qui a été mise en onde par Georges Léonard Sagnot avec l'assistance technique de notre ami Keith Holmes et Morgane Guiriac.
Oui, laissez-nous vos messages sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique.
Ici Chérubin Dorsil
et Morgane Guiriac.
On se retrouve dans une demi-heure. Yeah.